Bonsoir à tous, ceux qui sont ici et ceux qui sont à distance. Avant tout, donc bienvenue pour cette soirée qui est à la fois la soirée annuelle où le Centre Sèvres met en œuvre son partenariat avec les sources chrétiennes. Et donc voilà, chaque année on fait une soirée pour donner au public parisien des nouvelles sur les publications de l'année des sources chrétiennes. Et puis, nous avons également cette année la joie de fêter les 80 ans de la collection, fondée en 1942 par les pères de Lubac, Danielou et Mondésert. Donc, pour ce soir, d'abord, j'ai juste vérifié, puisqu'il y a des gens à distance, que tous ceux qui sont loin ont coupé leur micro, ce qui permettra d'éviter des échos malencontreux. Voilà, donc... spéciale dédicace à Alain Le Bouluec et à Guillaume Badi. Je fais du name shaming. Voilà. Et puis, pour cette soirée, donc voilà, je suis Pierre Molinier, l'un des membres du département de patristique aux sources chrétiennes. Nous aurons donc la joie d'écouter d'abord Laurence Mellerin, que je vais présenter dans un instant, pendant environ 45 minutes, pour nous présenter voilà, un des volumes qui est publié cette année. Puis Guillaume Badi, le directeur des sources chrétiennes, prendra la parole à distance, puisqu'il est resté à Lyon pour des motifs de grippe, pendant environ une vingtaine de minutes. Puis nous donnerons la parole à Michel Fédou, qui est à l'extrême droite, si on peut dire, et qui nous présentera... votre extrême gauche, et qui voilà, nous parlera des enjeux voilà, des pères de l'Église dans la théologie contemporaine. Donc, c'est bon, ceux qui sont loin, vous m'entendez tous? Très bien. Et donc, nous allons commencer par un exposé de Laurence Mellerin, donc, qui est membre du CNRS, qui est la directrice adjointe des sources chrétiennes, qui est une spécialiste des textes monastiques du XIIe siècle, mais qui s'intéresse également aux nouvelles technologies appliquées en particulier au corpus biblique et patristique. Et à ce titre, c'est elle qui est responsable du projet Bible Index, qui permet de retrouver facilement tous les textes des Pères de l'Église relatifs à un verset particulier de l'Écriture. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de Saint Bernard, mais plus précisément de la vie, d'une vie de Saint Bernard publiée cette année. Et donc, Laurence, à toi la parole. Je vais essayer de lancer le PowerPoint.
Voilà. Merci, Pierre. Merci de votre invitation. Et voilà, on va lancer le diaporama avec l'image de celui qui devrait être là à ma place ce soir, à savoir le frère Raffaele Facetta, qui est l'auteur de ces deux gros volumes de la Vita Prima. Donc, il a traduit, annoté, commenté, et puis qui l'a encore présenté au colloque qui vient d'avoir lieu à Rome, si tu peux avancer. Un colloque qui vient de se tenir à l'Enseignanum sur justement ce livre de la Vita Prima, donc approche hagiographique, approche théologique, plus littéraire aussi et philosophique. Donc, un beau colloque qui a rassemblé 25 personnes pour découvrir ce texte et bien sûr ma conférence intègre un petit peu ce qu'on a pu échanger la semaine dernière à ce sujet. Donc je remercie les collègues aussi qui y ont contribué. Alors comme l'écrit le frère Facetta, troisième diapo, voilà, la Vita Prima de Saint Bernard est la plus ancienne, la plus belle, et la plus importante des biographies de Bernard de Clairvaux. Ce texte, fondamental pour notre connaissance de la vie et de la personnalité de Bernard, a eu une histoire complexe et tourmentée. On a longtemps espéré l'édition critique de la part d'un grand savant néerlandais, Adrian Bredero, qui a consacré toute sa vie à l'étude de ce texte et de sa transmission. On a de lui en particulier un ouvrage qui est paru en 1993, qui s'intitule « Bernard de Clairvaux, culte et histoire », où il récapitule un peu toutes ses recherches. Mais il a quand même fallu attendre pendant plus de 20 ans, donc, qu'un autre savant néerlandais, un jésuite, Paul Verdeyen, achève cette tâche en réalisant en 2011 l'édition critique pour le Corpus Christianorum de cette Vita Prima. Donc, je retracerai dans un premier temps la genèse du texte de la Vita et les étapes de sa rédaction. La Vita Prima présente ensuite une autre caractéristique que celle de complexité, c'est qu'elle est l'œuvre de trois auteurs différents. Guillaume de Saint-Thierry, qui publia le livre 1, Arnaud de Bonneval, le livre 2, et Geoffroy d'Auxerre, les trois derniers livres, 3 à 5, et qui se chargea aussi de la révision finale de l'ensemble. Et je vous montre l'analyse textométrique de ces textes, qui est vraiment très, très révélatrice de la différence de style entre ces auteurs. Elle distingue très nettement d'un côté les trois livres de Geoffroy, de l'autre celui d'Arnaud, de l'autre celui de Guillaume, et bon, je ne commenterai pas ça en détail ce soir, mais on voit très nettement les différences de style et de vocabulaire de ces trois auteurs. Donc, dans un second temps, je vous présenterai ces auteurs et leur manière différente de mettre en lumière les facettes qu'ils privilégient de la sainteté de Bernard. Et enfin, pour conclure cette conférence, je rappellerai que la Vita est un texte qui a été rédigé pour le procès en canonisation de Bernard, et donc il faudra s'interroger sur la valeur historique de ce témoignage. S'agit-il d'une biographie hagiographique uniquement ? Il y a quand même 340 récits de miracles. Donc, ça, voilà. On peut avancer. Donc tout d'abord, la genèse du texte et les étapes de sa rédaction. Alors le 15 février 1145, Bernard Paganelli, qui est abbé du monastère cistercien de Trois-Fontaines, près de Rome, autrefois novice de Saint Bernard, est élu pape et prend le nom d'Eugène III. C'est pendant l'hiver de cette même année que la santé de Bernard, déjà sérieusement affectée à cause d'une ascèse excessive durant son noviciat, se détériore soudainement au point de faire craindre l'imminence de sa mort. Et si cela devait arriver, la récente élection d'un pape cistercien offrait une occasion idéale, bien sûr, pour transmettre sans délai la demande de canonisation de l'abbé de Clairvaux aux instances romaines. Cette demande devait être accompagnée d'une biographie du candidat pour démontrer qu'il était digne de cet honneur. C'est donc Geoffroy d'Auxerre, le jeune secrétaire de Bernard, qui est désigné pour rassembler tout le matériau nécessaire à la composition de la biographie, ainsi que pour chercher une personne apte à la rédiger. Geoffroy commence à mettre par écrit des notes préparatoires, discrètement cependant pour que Bernard ne s'en aperçoive pas. On ne sait pas si ça a été le cas. En tout cas, ces notes, on les a conservées. C'est le livre dont vous avez la couverture sur la diapositive, les Fragmenta Gaufridi, notes sur les miracles, la vie et les miracles de Saint Bernard, et également édité par le frère Faceta. En 146, ou l'année suivante, Geoffroy transmet ses notes à Raynaud de Foigny, un moine de Clairvaux qui avait été secrétaire de Bernard avant lui, et il lui confie la charge de rédiger la biographie. Cependant, Raynaud renonça rapidement, et Geoffroy se met à la recherche d'un nouvel auteur. Son choix se porte alors sur Guillaume, l'abbé de Saint-Thierry, enfin l'ancien abbé de Saint-Thierry, qui avait donné sa démission en 1135 pour entrer comme simple moine au monastère cistercien de Signy. Les raisons de ce choix sont assez évidentes. Guillaume avait rencontré Bernard en 1119 ou 1120 sans doute, et il en était devenu un ami intime. En outre, il avait déjà publié diverses œuvres bien connues et appréciées de ses contemporains pour leur qualité littéraire et théologique. Donc Guillaume se met tout de suite à l'ouvrage et écrit le premier livre de la Vita, qui fait le récit de la vie de Bernard depuis sa naissance jusqu'à l'an 1130. Mais Guillaume ne peut aller plus loin, car il meurt le 8 septembre 1148. Geoffroy se tourne alors vers Arnaud de Bonneval, un abbé de monastère bénédictin dans le diocèse de Chartres. Arnaud était un ami de Bernard, et ses écrits lui avaient déjà valu une solide réputation. Il devait en outre exposer l'active participation de Bernard au grand schisme des années 1130-1138, qui avait divisé l'Église catholique entre deux papes, Innocent II et Anaclet II. L'évêque de Chartres, Geoffroy de Lèves, avait été avec Bernard un ardent soutien à l'autorité influente en faveur d'Innocent II. Ce Geoffroy de Lèves donc pouvait fournir à Arnaud des informations très fiables et abondantes sur l'activité de Bernard pendant le schisme. Arnaud entreprit sans délai la rédaction du livre 2 et l'acheva à la fin de l'année 1152 ou au début de l'année suivante. Et son récit à lui couvre les années 1130-1145 avec quelques allusions à des événements un peu postérieurs. Passer la diapo. Mais contrairement à ce qui avait été anticipé, c'est Eugène III qui meurt avant Bernard, le 8 juillet 1153. Dès lors, il n'y avait plus d'urgence à terminer la Vita Prima. Mais comme le livre 2 s'arrêtait en 1145, il fallait tout de même continuer l'œuvre inachevée. Et Geoffroy, en tant que secrétaire et fidèle compagnon de Bernard de 1145 jusqu'à sa mort, semblait naturellement l'homme adapté pour achever cette tâche. Il commença la rédaction des livres 3-5 en 1154 et l'acheva au début de 1156. En 1162, il fut élu abbé de Clairvaux, donc c'est le troisième successeur de Bernard. Et donc il démarre les démarches nécessaires à la canonisation de son ancien abbé. Et une occasion favorable se présente en 1163, quand le pape Alexandre III se rend en France et convoque un concile à Tours. Geoffroy participe au concile et remet sa requête au pape. Cette dernière est accompagnée d'un manuscrit de la Vita Prima, dans ce qu'on appelle la recension A, la première, mais cette demande fut rejetée. La raison officielle en était que le pape trouvait qu'il y avait trop de requêtes de canonisation cette année-là, et donc, plutôt que de choisir de façon inéquitable, il choisit de les rejeter toutes. Bon. C'est qu'il avait en tête de changer la procédure de canonisation pour demander que toutes les informations soient vérifiées, qu'il y ait des enquêtes pour chaque miracle et tous les faits rapportés dans les biographies, ce qui sera le cas pour la tentative suivante donc de Geoffroy. Mais évidemment, compte tenu de cette nouvelle procédure, Geoffroy doit entreprendre une révision complète du texte de la Vita Prima. Il en résulte donc une nouvelle édition, la recension B. Et là, Geoffroy y travaille essentiellement pendant qu'il est abbé de Clairvaux, entre 1162 et 1165. Mais en 1165, il doit démissionner à cause de ce même pape Alexandre III et du roi de France Louis VII. Donc Geoffroy va se réfugier à Cîteaux, où il entre en 1171. Et quand il revient en grâce auprès du pape, il est choisi aussi à ce moment-là comme abbé de Fossanova dans le Latium. À ce moment-là, il pense que l'occasion est favorable pour demander une nouvelle fois la canonisation de Bernard, cette fois-ci donc à Alexandre III. La requête, accompagnée de la recension B de la Vita Prima, est présentée avec l'appui de tous les abbés cisterciens, des évêques français et du roi Louis VII, et cette fois-ci, elle obtient un franc succès, puisque le 18 janvier 1174, Bernard est inscrit dans le catalogue officiel des saints reconnu par l'Église catholique romaine. Donc le but auquel Geoffroy avait quand même consacré 25 années de sa vie était enfin atteint. Donc la version éditée dans les sources chrétiennes, c'est la recension A, la plus riche, mais les différences avec la recension B qui a effectivement servi pour la canonisation sont indiqués dans les notes. On peut changer de diapositive. Donc, je vais passer maintenant aux spécificités de nos trois auteurs. Chacun a sa propre perspective pour nous montrer tel ou tel aspect de la personnalité de Bernard et en laisser d'autres de côté. Et bien sûr, ces différences dépendent de la relation personnelle que chacun avait avec l'abbé de Clairvaux. Je commencerai par Guillaume de Saint-Thierry, uni, pour reprendre les termes de Jean Deschanet à Bernard, par une amitié légendaire. Cette amitié a été étudiée et interprétée de différentes manières. Tous les auteurs s'accordent cependant pour dire qu'elle a eu une importance fondamentale dans la vie de l'un comme de l'autre. Le premier livre de la Vita nous offre un témoignage essentiel à ce sujet. Dans le chapitre 33, l'abbé de Saint-Thierry raconte sa première rencontre avec Bernard dans une cabane proche de Clairvaux où le saint passait une année sabbatique. Le chapitre général de l'ordre cistercien la lui avait accordé, imposé pourrait-on dire, à cause de sa santé fragile. Cette rencontre eut lieu donc sans doute en 1119-1120. Quand Guillaume la décrit, 28 années se sont donc écoulées. Mais pourtant, son récit vibre encore de l'émotion qu'il a éprouvée alors. Je vous lis le texte et la diapo suivante. « Comme je lui rendais visite en ce lieu avec un autre abbé, je le trouvais dans sa cabane, semblable à celle qu'on a coutume de bâtir au carrefour public pour les lépreux. Je le trouvais, selon l'ordre de l'évêque et des abbés, déchargé de tout soin du monastère, tant intérieur qu'extérieur, en train de vaquer à Dieu et à lui-même, et exultant comme dans les délices du paradis. » Entré dans cette chambre royale, tandis que je contemplais l'habitation et l'habitant, ce logis, j'en appelle Dieu à témoin, m'inspirait une aussi grande révérence que si j'étais monté à l'autel de Dieu. Et je fus saisi d'une si grande tendresse à l'égard de cet homme et d'un si grand désir d'habiter avec lui dans cette pauvreté et cette simplicité que, si le choix m'en eût été donné ce jour-là, je n'aurais rien choisi plus volontiers que de demeurer toujours en ce lieu avec lui pour le servir. C'est ainsi donc que commence une grande amitié destinée à durer jusqu'à la mort. Toutefois, cette amitié fut vécue de façon différente par les deux hommes. Il est probable que Bernard la jugeait trop possessive et exclusive. Jean Leclerc a parlé de dépendance affective de Guillaume vis-à-vis de Bernard. Il qualifie l'abbé de Saint-Thierry de maladif, indécis, dépressif. Et selon lui, dans le premier livre de la Vita, Guillaume aurait projeté certains traits de son propre caractère sur son ami, nous montrant alors un Bernard de santé délicate, souvent anxieux, tourmenté et incertain. Cette interprétation est assez discutable. D'abord parce que Guillaume a fait preuve de fermeté, de courage et de capacité de décision en certaines circonstances, en particulier pour défendre la réforme de l'ordre bénédictin face au cardinal Mathieu d'Albano. Ensuite, parce que certains aspects de la personnalité de Bernard que Guillaume révèle, comme la timidité, la réserve et parfois même le doute, la fatigue, le découragement, semblent fondés par ailleurs. Ils sont aussi signalés par Geoffroy d'Auxerre et on en trouve aussi quelques traces dans les écrits mêmes de Bernard. Donc, on peut penser que l'amitié de Guillaume, malgré son intensité, reste lucide. Car Guillaume n'ignore pas complètement les aspects critiquables et critiqués de son ami. Mais il tourne toujours son récit à l'avantage de Bernard. C'est le cas, par exemple, dans la page que je vais vous lire maintenant, qui parle de l'ascétisme de Bernard. Les médecins le voyaient, ainsi que sa façon de vivre, et s'en étonnaient. Ils lui reprochaient de faire une si grande violence à la nature dans son propre corps, tel un agneau qui fut attelé à une charrue et forcé à labourer. Mais quand, à cause de son estomac détraqué, ses fréquents vomissements d'aliments non digérés commencèrent à être un peu trop gênants pour les autres, surtout lorsqu'il psalmodiait au cœur, il ne délaissa cependant pas tout de suite les assemblées de ses frères, mais fit creuser et aménager à côté de sa place un trou dans le sol, et ainsi pourvut-il à cette douloureuse nécessité comme il put pendant un certain temps. On peut quand même penser qu'il y a une légère ironie derrière ce texte. Nous nous en affligeons, certes, et nous déplorons le triste effet de son infirmité. Mais nous vénérons ses sentiments de Saint-Désir et de ferveur spirituelle. Cependant, même l'effet de son infirmité ne doit pas être entièrement déploré et regretté. Et quoi ? La sagesse de Dieu n'a-t-elle pas voulu confondre par l'infirmité de cet homme les forces si grandes et si multiples de ce monde ? Oui, ce qui devait être accompli par lui selon la grâce qui lui avait été donnée, est-il jamais resté inaccompli par suite de l'une quelconque de ses infirmités ? Donc, cette infirmité était providentielle. Reste que Guillaume est finalement le seul des trois biographes à vraiment avoir dressé un portrait spirituel de Bernard et à donner une image globale de sa santé qui inclut les aspects problématiques, comme on le voit ici, tout en restant dans une dynamique clairement apologétique. Guillaume connaissait parfaitement les critiques que les contemporains de Bernard lui adressaient. On lui reprochait en particulier ses interventions fréquentes dans la vie de l'Église et de la société, qui semblaient déjà contredire sa vocation de moine cistercien, et aussi qui était perçue comme trop violente ou injuste, car fondée sur des informations insuffisantes et partiales. Guillaume évoque ses reproches dans la Vita Prima, mais les récuse en bloc. Et au seuil de l'ouvrage, le récit du songe d'Alette, la mère de Bernard, durant sa grossesse, donne le ton. C'est la diapo suivante. Quand elle portait Bernard dans son sein, elle fit un songe, présage de son destin futur. Elle porte en son sein un petit chien, tout blanc, au dos roux, qui aboyait. Profondément effrayée par ce rêve, elle consulta un religieux qui, recevant instantanément un esprit de prophétie, répondit à cette femme affolée et anxieuse. « N'ayez pas peur, tout va bien. Vous serez la mère d'un excellent petit chien, qui sera le gardien de la maison de Dieu et émettra pour elle de puissants aboiements contre les ennemis de la foi. En effet, il sera un prédicateur sans égal. » Alors le songe prophétique d'une mère enceinte d'un saint est un lieu commun de la géographie médiévale. On remarquera que le chien de Dominique est blanc et noir, je crois. En tout cas, celui de Bernard est roux et blanc, roux comme sa barbe. Voilà. Mais Guillaume se sert de ce motif hagiographique pour présenter Bernard comme un prédicateur éminent, prédestiné à cela par Dieu. Et ainsi, il justifie son activité extérieure au monastère. La critique des détracteurs est ainsi mise sur le compte de la sainteté de Bernard, qui est le gardien de la maison de Dieu, son défenseur contre les ennemis de la foi, et je vous passe bien d'autres expressions pour désigner ce rôle. Guillaume a été le premier des trois biographes à orienter ainsi la sainteté de son ami vers l'Église et le monde. On reviendra sur ce thème encore plus développé chez Geoffroy. Mais le livre 1 est aussi un manifeste de l'idéal monastique de Guillaume et un avertissement pour les cisterciens. Car avant tout, et c'est la caractéristique de Guillaume, il présente d'abord Bernard comme un moine, l'abbé idéal d'un monastère idéal. Ce point est sans doute donc l'aspect le plus personnel de sa contribution. Pour mieux le comprendre, il faut revenir sur l'itinéraire monastique de Guillaume. Son idéal consistait d'abord en une ferme volonté de retour à la règle de saint Benoît dans sa pureté originelle, pureté qui avait été altérée par les usages introduits à Cluny. Guillaume exprimait le désir d'une vie plus simple, plus pauvre, éloignée autant que possible des affaires et des préoccupations mondaines, pour pouvoir mieux se consacrer à la contemplation. Cet idéal avait également inspiré la réforme cistercienne et était partagé par Bernard. On pourrait donc lire en filigrane de tout ce livre 1 un avertissement adressé aux cisterciens afin qu'ils demeurent fidèles aux inspirations premières de leur fondateur. Les deux dernières œuvres de Guillaume, la lettre aux frères du Mont-Dieu et ce livre 1, témoignent d'une évolution de cet idéal religieux. Son regard se tourne désormais vers les pères du désert qui représentent, selon lui, la forme la plus parfaite de la vie monastique telle qu'elle semble réapparaître dans l'expérience des Chartreux et aussi pour lui dans l'âge d'or de Clairvaux. On voit comment il le décrit dans la Vita, donc au chapitre 35-36. Vraiment la solitude de ce lieu où les serviteurs de Dieu étaient cachés au milieu de forêts touffues et entre les gorges de monts très rapprochés évoquait en quelque sorte cette grotte de notre père Saint-Benoît, où il fut découvert jadis par les bergers, si bien que ceux qui imitaient sa vie semblaient avoir la même habitation que lui, et pratiquaient la même forme de solitude. Oui, tous y étaient solitaires, même au milieu de la multitude. Guillaume présente donc Bernard comme un nouveau Saint-Benoît. Mais un nouveau Saint-Benoît qui n'est pas abbé du Mont-Cassin et auteur d'une règle pour cénobites, mais plutôt l'ermite de Subiaco, dans sa première vocation pour la vie solitaire. Saint-Benoît est ici assimilé au père du désert. Et la description du site primitif de Clairvaux a été fortement retouchée dans ce but. Guillaume parle de gorges étroites et pas de vallées pour justifier l'assimilation à Subiaco. En réalité, on peut penser que Guillaume ici s'éloigne du véritable esprit de Cîteaux, dans la mesure où les cisterciens ne sont pas des ermites qui vivent en communauté, mais bien des cénobites qui vivent dans le désert. Et on peut se demander si Guillaume a attribué cet idéal monastique à Bernard en projetant son image sur Bernard jeune dans sa vita. Alors c'est à nuancer. Assurément, le jeune Bernard a une vision de la vie monastique assez proche des idées de Guillaume. Quand on regarde ses écrits de cette période, en particulier sa lettre 1 à son cousin Robert de Châtillon, ou encore l'Apologie, qu'il a rédigée d'ailleurs à l'initiative de Guillaume, elle témoigne clairement de son rejet de l'évolution clunisienne. Il y a donc à cette époque une pleine convergence de sentiments entre les deux abbés à propos de la vie monastique, même si Bernard est moins influencé par les pères du désert. Et par la suite, ces absences de Clairvaux et la gestion du monastère par ses prieurs et ses religieux ont considérablement modifié la situation de la communauté de Clairvaux et plus largement de tout l'ordre cistercien. Selon Guillaume, la reconstruction grandiose des édifices conventuels et de l'église abbatiale, entreprise à Clairvaux donc en 1135, sonne la fin de ce qu'il appelle l'âge d'or du monastère. Et Bernard, lui aussi, était bien conscient des dangers inhérents au développement et à l'enrichissement de son ordre. Dans les sermons sur le psaume Quae habitat, on trouve le même genre de préoccupation. Ainsi, on peut penser que l'idéal monastique de Guillaume était partagé par l'abbé de Clairvaux, et ce jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sujet qui encore en débat, en tout cas c'est l'avis ferme et net du frère Faceta. Donc le livre 1 n'est pas seulement un écrit hagiographique en vue de la canonisation de Bernard, mais plus encore une œuvre d'historiographie engagée destinée à avoir un impact sur le monachisme de son temps, et en particulier le monachisme cistercien. Guillaume évoque les débuts de la vie de Clairvaux comme digne d'admiration, mais surtout comme un modèle à imiter. J'en viens maintenant au deuxième auteur, Arnaud de Bonneval. Sa perspective est très différente de celle de Guillaume, simplement parce qu'elle découle d'un autre niveau de connaissance de Bernard. Donc abbé de Saint-Florentin de Bonneval, la prestigieuse abbaye bénédictine qui a été fondée en 857 dans le diocèse de Chartres, Arnaud a rencontré Bernard pour la première fois en 1130 au Concile des Tempes, convoqué par le roi de France Louis VI, qui devait choisir entre les deux papes nouvellement élus, donc Innocent II et Anaclet II. Arnaud resta profondément impressionné, lui aussi, par la personnalité charismatique de Bernard. Et vraisemblablement, il a surévalué dans son récit le rôle de Bernard dans ce concile. Ensuite, Bernard et Arnaud furent alliés à la suite de l'évêque de Chartres, Geoffroy de Lèves, dans le conflit entre les deux papes rivaux. Quelques années après, ils collaborèrent à nouveau dans les négociations qui aboutirent à la paix en 1144 entre le roi Louis VII et son vassal Thibaut IV, comte de Blois et de Champagne. Les dernières années de l'abbatiat d'Arnaud furent obscurcies par des difficultés internes qui le conduisirent à démissionner et à se réfugier à Clairvaux, où il mourut. Donc ces détails biographiques nous autorisent à penser qu'il y avait bien une amitié entre Arnaud et Bernard. Pour autant, leur relation n'a jamais été aussi intime et profonde que celle qui liait Bernard à Guillaume de Saint-Thierry ou à Geoffroy d'Auxerre. Elle peut néanmoins être qualifiée d'amitié au sens de ce terme au XIIe siècle, comme le définit par exemple Colin Morris, pour qui l'amitié, qui s'exprimait notamment par l'échange de lettres, était surtout fondée sur la communion dans la prière, la communion de pensée dans un cercle d'intellectuels, et ce qu'il appelle le commonwealth d'amitié, fournissait à tous ses membres une sorte d'inspiration commune en vue aussi d'une action politique commune. Et bien sûr, si on définit l'amitié de cette façon, la relation entre Bernard et Arnaud y correspond tout à fait. Les deux abbés étaient dans le camp d'Innocent II pendant le schisme et avaient donc fondé un réseau d'amitié dans ce sens. À cela, on peut ajouter une lettre, la lettre 310 que Bernard écrit à Arnaud sur son lit de mort. Alors, c'est une lettre qui est l'objet d'immenses controverses. Alors, elle a été insérée par Geoffroy d'Auxerre dans le livre 5 de la Vita, intégrée aussi dans le corpus des lettres bernardines, constituées également par Geoffroy. Mais d'après Brédéraud, il s'agirait d'un faux, intégralement composé par Geoffroy. Pourquoi ? Ben pour justifier le fait d'avoir recouru à Arnaud de Bonneval, qui n'est pas cistercien, pour rédiger le livre 2 de la Vita. Et il ajoute comme preuve l'absence de tout témoignage d'amitié entre Bernard et Arnaud, contrairement à ce que je viens de vous exposer. Mais aujourd'hui, il y a quand même une majorité de spécialistes pour refuser cette mise en cause. Bon, voilà, je vous passe le détail de l'argumentation de cette controverse, mais enfin, c'est vrai que si la dernière lettre écrite par Bernard sur son lit de mort est effectivement adressée à Arnaud de Bonneval, c'est un argument de poids en faveur de leur amitié. Alors, si l'on considère maintenant le travail d'Arnaud dans le livre 2, on voit qu'il met donc en lumière, bien sûr, la participation active de Bernard dans le schisme et sa contribution décisive à la victoire d'Innocent II. Pour les historiens modernes, ce récit est relativement fondé et fiable. Pierre Aubé, par exemple, parle de saine valeur historique. Mais, bien sûr, l'abbé de Bonneval avait clairement choisi son camp pour Innocent II et ne donne que des témoignages ouvertement hostiles à Anaclet, alors que les opinions modernes sont beaucoup plus nuancées. Mais il ne nous dit pas grand-chose sur l'activité concrète de Bernard. Il préfère faire le récit des miracles, parce que ce qu'il veut mettre en relief, c'est la sainteté de son héros. Donc les événements politiques constituent la trame du récit, mais ne sont pas relatés en tant que tels. Il s'est partagé la tâche avec Geoffroy, et lui rapporte essentiellement les exorcismes accomplis par Bernard, avec une certaine prédilection pour le pittoresque, le bizarre, et en particulier quand il raconte les confrontations de Saint-Bernard avec le diable. Alors, je vous en donnerai qu'un exemple. Un récit de miracle réalisé à Milan. Alors déjà, bon, le contexte, personne ne pouvait résister à leur insolence, leur c'est les diables, car pendant le long schisme d'Anselme, qui avait été partisan de Pierre, les gémissements des prêtres, la désolation des vierges, les sanctuaires profanés, les autels souillés avaient provoqué la colère de Dieu contre le peuple. On voit très bien que le schisme est la cause du déclenchement de l'action des démons. Mais à l'arrivée de l'homme de Dieu, cette liberté effrénée des démons fut réprimée. Chaque jour, le diable cédait du terrain et s'enfuyait devant les prières de l'homme de Dieu. Parmi ceux qui étaient tourmentés, une femme avancée en âge, citoyenne de Milan et jadis dame de condition, fut entraînée par beaucoup de personnes jusqu'à l'église Saint-Ambroise à la suite de l'homme saint. Faut changer la diapo. Le diable s'était installé depuis plusieurs années dans sa poitrine et l'avait déjà suffoqué au point que, privé de la vue, de l'ouïe et de la parole, grinçant des dents et tirant la langue à la manière d'une trompe d'éléphant, elle ne semblait plus une femme, mais un monstre. Sa face sordide, son expression terrible, son haleine fétide, attestaient en elle la présence impure de Satan. Quand il le regardait, l'homme de Dieu reconnut le diable. Se tournant vers le peuple qui s'était rassemblé en une foule sans nombre, il lui ordonne de prier avec le plus grand recueillement et ordonne au clerc et aux moines qui se tenaient là de placer la femme et de la retenir. Elle, résistant et regimbant avec une force non naturelle mais diabolique, non sans avoir houspillé les autres, frappa d'un coup de pied l'abbé lui-même. Avec douceur, celui-ci ne tient pas compte de cette hardiesse du diable. Et pour l'expulser, il invoque l'aide de Dieu avec une supplication humble et tranquille et il commence à offrir le sacrifice du salut. Bon, je vous passe la suite. En tout cas, encore un miracle lié au sacrifice du salut, donc à la célébration de l'Eucharistie, comme c'est le cas à maintes reprises dans la Vita Prima. Il y a très souvent une dimension sacramentelle à l'action miraculeuse de Bernard. Donc, comme Guillaume, Arnaud se présente lui comme un apologète de la sainteté de Bernard, mais dans une perspective différente, on peut dire qu'il n'a pas saisi tous les aspects complexes de la problématique de la personnalité de son héros. Il apparaît plutôt comme le représentant d'un monachisme tranquille, prospère et fier de l'être. Il n'a pas les mêmes inquiétudes que Guillaume par rapport à la richesse des monastères. Et quand il décrit la reconstruction des bâtiments de Clairvaux, c'est tout à fait élogieux, on n'a pas du tout le même son de cloche. Mais il est lui aussi très conscient des critiques que Bernard s'est attirées en raison de ses interventions dans le monde. Lui aussi le justifie à plusieurs reprises en soulignant que Bernard a toujours obéi aux sollicitations qui lui étaient adressées, aussi bien par les autorités ecclésiastiques que par les autorités civiles. Et il affirme aussi que Bernard a toujours agi, certes avec fermeté, mais toujours avec discrétion et mesure. Là, les historiens modernes ne seraient pas forcément tout à fait d'accord avec lui. Il nous a aussi, même si ce n'est pas avec la même finesse que Guillaume, donné un portrait très poignant du saint, en particulier au chapitre 25 et 27 de son livre. Et lui, ce qu'il met surtout en relief, outre la douceur que j'ai mentionnée tout à l'heure dans le texte de l'exorcisme, c'est l'humilité de Bernard. Il s'appuie notamment pour cela sur le refus que Bernard a opposé aux propositions à 5 reprises de l'épiscopat, qu'il a refusé parce qu'il ne s'en estimait pas digne. Comme il le conclut, manifestant ainsi que lui aussi maîtrisait très bien l'art d'écrire, hein, « La mitre et l'anneau l'attiraient moins que le râteau et la binette. » Alors si j'en viens maintenant à Geoffroy d'Auxerre, qui peut être considéré comme l'architecte de la Vita Prima, on peut voir dans ses livres, ces 3 livres, un modèle de schéma classique de la géographie médiévale. Ces livres comportent une description des vertus du saint et de leur exercice héroïque, attesté par les différents épisodes de sa vie. Ensuite, les miracles qu'il a opérés, ses dons charismatiques, comme les visions, les révélations, les prophéties, dans le livre 4. Et enfin, dans le livre 5, qui est nettement plus court, sa mort sainte et les miracles posthumes. Très peu nombreux, très peu nombreux parce que les moines de Clairvaux trouvaient ça très gênant qu'il y ait des foules qui viennent sur la tombe de Bernard. Donc, on lui a enjoint de ne pas faire trop de miracles posthumes et comme il a l'esprit d'obéissance, il a obéi. Voilà. Donc, dans ce cadre géographique très, très clair, Geoffroy sait cependant manifester son indépendance. Il a été témoin oculaire de la plupart des faits qu'il relate, où il a reçu des informations de première main par des personnes très proches de Bernard. Donc, ces récits ont toujours un ancrage très fort dans le réel. Mais Geoffroy interprète cette réalité avec une clé de lecture qui lui est propre. Et dont je vais vous parler maintenant. Donc, comme Guillaume, comme Arnaud, Geoffroy, lui aussi, a vécu une rencontre extrêmement marquante avec Bernard qui a transformé toute sa vie. Sa rencontre à lui, elle a eu lieu encore un peu plus tard, en 139-140 à Paris. Geoffroy était disciple de Pierre Abélard et écoute un sermon de Bernard. Et voilà comment il le raconte. « Béni soit du Seigneur le jour où la lumière se leva pour moi, qui gisait dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Béni soit le jour où le soleil de justice, ou plutôt de miséricorde, se leva et visita d'en haut ma pauvre âme. D'une seule parole, en un instant, en un clin d'œil, par un mystérieux changement de la droite du Très-Haut, il transforma radicalement l'homme si rebelle et si pervers que j'étais en un homme nouveau. Quand Geoffroy est enthousiaste, il met en cascade les citations bibliques. Là, je pense qu'on peut y voir un marqueur net de son enthousiasme. Et toute son existence, il manifestera à l'égard de Bernard une vénération extrêmement profonde. Pour lui, la sainteté de Bernard est évidente. Et c'est particulièrement visible dans le livre 3, où il nous donne un portrait spirituel de son abbé. Et il lui attribue toutes les vertus habituelles qu'on trouve dans la vie des saints moines. Il les atteste par des épisodes, mais il anime aussi son portrait par quelques détails que seul un témoin oculaire peut donner, notamment une description de l'apparence physique de Bernard, sa manière de s'habiller et la mention de son attention à la propreté personnelle. Il aima toujours la pauvreté dans les vêtements, la saleté, jamais. Mais Geoffroy ne pouvait pas pour autant éluder la question qui avait déjà perturbé ses deux prédécesseurs, à savoir comment concilier les nombreuses et fougueuses interventions de Bernard en dehors de son monastère avec son statut de moine cistercien. Et il va y répondre en élaborant une nouvelle image de la sainteté de Bernard, à savoir Bernard, défenseur de la foi catholique et saint in medio ecclésiae. Donc pour les sorties de Bernard hors du monastère, il adopte la tactique déjà utilisée par Arnaud. Il les justifie en citant l'obéissance du saint au pape, aux autres prélats, aux abbés. Le problème se complique parce que Geoffroy aborde une période nettement plus délicate, puisque dans les actions de Bernard à justifier, il y a la prédication de la deuxième croisade, qui s'est terminée par un affreux désastre, et aussi les violentes disputes de Bernard avec les deux plus illustres philosophes et théologiens de son temps, à savoir Pierre Abélard et Gilbert de la Porée. Alors pour la croisade, Geoffroy reprend l'argument classique. Bernard s'incline devant l'ordre du pape Eugène III, alors que lui-même était réticent à se lancer dans l'aventure. Il ajoute deux justifications théologiques. D'une part, la prédication de Bernard a été accompagnée de nombreux miracles, ce qui atteste son bien fondé. Et par ailleurs, elle a incité de nombreux pécheurs à prendre la croix et à verser leur sang pour le Christ et pour les frères d'Orient menacés par les infidèles. Donc malgré son échec final, elle a porté beaucoup de fruits, puisqu'elle a permis le salut de nombreuses âmes. Évidemment, ce sont des arguments difficiles à admettre sur le plan historique. L'apologie de Geoffroy devient plus habile, plus subtile, lorsqu'il évoque les attaques de Bernard contre Abélard ou Gilbert. Sa présentation est évidemment sans nuance. Bernard est le défenseur de la foi catholique, l'athlète incomparable de la Sainte Église de son temps, et les deux penseurs qui l'attaquent, même si Geoffroy leur reconnaît une grande stature intellectuelle, sont de toute façon dans l'erreur. Mais il enrichit la personnalité de Bernard de cette nouvelle dimension de sainteté. Il est donc saint, comme il l'explique, comme il le dit lui-même, in medio ecclésiae. Pour qu'il puisse ouvrir la bouche au milieu de l'Église, Dieu l'avait rempli d'un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc ses sorties hors du monastère sont justifiées et voulues par Dieu, comme l'était son talent de prédicateur par Guillaume au moment où il reprend le songe d'Alette. Au livre 5, dans une grande complainte au moment de la mort de Bernard, il le définit comme un très ferme et magnifique pilier de la Sainte Église, puissante trompette de Dieu, instrument le plus doux, encore une fois cette douceur dont on a beaucoup parlé pendant le colloque, et même un père commun au monde entier. Geoffroy étend donc le rôle de Bernard bien au-delà de Clairvaux et de l'ordre cistercien, et cela correspond à la réalité des actions de Bernard qu'il a pu observer. Donc il poursuit cette ligne déjà amorcée par Guillaume et Arnaud. Or cette présentation de Bernard, qui n'est pas a priori celle qui viendrait forcément à l'esprit pour nous lecteurs de ses œuvres, en tout cas pas en premier lieu, s'est avérée la perspective décisive pour le succès de son procès de canonisation. quand Alexandre III le proclame saint, donc en 1174, il publie 4 lettres apostoliques où il expose les raisons de sa décision et, en particulier, il explique que Bernard a soutenu par l'apanage d'une grâce singulière et a non seulement brillé de sainteté et de piété en lui-même, mais laissa rayonner la lumière de sa foi et de sa doctrine sur toute l'Église. Il écrit aussi, il défendit particulièrement la Sainte Église romaine, récemment secouée par le tourbillon d'une grave persécution, tant par le mérite de sa vie que par le zèle de sa sagesse. Alors, pour conclure, donc, on peut s'interroger sur la valeur historique de cette biographie, œuvre d'histoire ou de dévotion, comme s'interroge le frère Facetta. Bredero donne une réponse claire à cette question. La valeur historique de ce texte se réduit à ceci. La Vita Prima permet de se rendre compte de la nature de la géographie au XIIe siècle. Point. Mais, en fait, la question ne peut pas être formulée ainsi en termes d'alternative. Il faut plutôt essayer de voir comment histoire et dévotion s'y articulent. Alors, les trois auteurs de la Vita ne sont évidemment pas des historiens formés à l'école positiviste du XIXe siècle. Dans tout ce texte, on ne trouve quand même que 2 dates, celle de l'entrée de Bernard à Citeaux et celle de sa mort. C'est tout. En outre, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a beaucoup de topoi de la géographie médiévale et 340 miracles. Mais, et puis aussi un dernier argument contre la valeur historique, les trois auteurs sont évidemment très partiaux quand ils parlent de la lutte de Bernard pour l'unité de l'Église, dans son rôle dans les controverses doctrinales, son action pour la réforme du monachisme, etc. Donc tous les adversaires sont toujours présentés sous un jour extrêmement négatif. Pour autant, peut-on reléguer complètement cette vita dans le domaine de la légende? On peut discuter. Alors concernant les miracles, quelle que soit l'explication, rationaliste ou confessante, que l'on souhaite leur donner, ils constituent une composante non négligeable de l'activité de Bernard hors de son monastère et illustrent en tout cas un aspect de sa personnalité qu'on ne peut ignorer, à savoir sa dimension charismatique. Ça, les attestations sont innombrables. Pour ce qui est de la fiabilité historique, même Bredero estime que cette vita est une source d'information à condition de la lire selon la méthode du close reading, parce qu'elle nous permet d'entrevoir en filigrane les critiques des contemporains, notamment à propos des interventions impétueuses dans l'Église ou la société. Et donc même contre l'intention des auteurs, la vita nous révèle des aspects problématiques de la figure de Bernard. Elle nous offre aussi un portrait de Bernard assez plausible si on le compare à ce que ses propres écrits, et en particulier son très long recueil de lettres, nous donnent à voir. Chacun des auteurs considère donc Bernard de son propre point de vue et montre un des aspects qui l'a le plus marqué, mais qui est ancré dans quelque chose dans une relation réelle. Donc Guillaume montre ses immenses qualités, mais aussi ses limites et ses faiblesses au quotidien, et parvient à intégrer les aspects problématiques dans l'image même de la sainteté de son ami qu'il construit. Arnaud a une perception plus superficielle de sa personnalité, mais met quand même en valeur 2 aspects saillants, l'humilité et la modestie. Et Geoffroy, donc, a le mérite de souligner une dimension fondamentale, à savoir ce rôle dans la vie de l'Église. Pour terminer, je voudrais ouvrir cette réflexion sur un paradoxe, parce que dans cette vision de Bernard, qui semble quand même assez complète, enfin avec ses regards croisés, il y a un élément qui n'apparaît quasiment pas, ce sont ses œuvres. Elles y tiennent une place étonnamment réduite. Leur rédaction est certes mentionnée, mais brièvement, et très peu de passages en sont cités. Nos auteurs ont aussi renoncé à imiter, sinon par petites touches, le parler biblique, pourtant si réputé, de leur héros. Car par-delà les actes, qui mettent en lumière sa personnalité riche et complexe et parfois même contradictoire, comme l'écrit Guillaume, raconter la vie de Bernard, c'est raconter le Christ vivant et parlant en lui. Or, il s'agit là d'une mission impossible, comme l'écrit Guillaume toujours, comme il vécut sur terre en menant une vie angélique. Je crois que personne ne peut le raconter s'il ne vit lui-même de l'esprit dont il vécut. Aussi, est-ce aux références scripturaires qui émaillent la vita et qui lui donnent son unité profonde d'un livre à l'autre que nos trois auteurs confient le soin de mettre en lumière la vie spirituelle de Bernard. Son élection d'homme de Dieu, l'expression « Weir Dei » revient plus de 150 fois, je crois, dans l'ensemble, cette expression d'homme de Dieu qui l'inscrit dans la lignée des prophètes et des apôtres, voire directement du Christ, la marque de l'action surnaturelle dans le contraste entre sa faiblesse corporelle et la puissance de son esprit, et enfin, une chose essentielle, la coopération de la liberté avec la grâce qui est donnée à Bernard. La Vita oriente ainsi, malgré son genre littéraire bien spécifique, comme en creux, vers la lecture des œuvres bernardines. Et ce n'est pas le moindre de ses intérêts pour nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Laurence pour cette belle présentation qui nous a rendu vraiment vivants les textes de Bernard. C'est aussi une manière de faire écho aux qualités du traducteur de ces textes. On ne peut pas poser de questions maintenant, mais on va enchaîner avec la présentation de Guillaume Badi et à la fin, il devrait rester une bonne dizaine de minutes pour pouvoir réagir ou poser des questions. Donc c'est maintenant Guillaume Badi qui va intervenir. Guillaume est également chercheur au CNRS, directeur des sources chrétiennes. Il est spécialiste de patristique grecque, notamment de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome. Et il va nous présenter, un peu c'est un tour de force, les volumes parus cette année, voilà, en une vingtaine de minutes. Donc Guillaume, on te laisse partager ton écran si tu le souhaites, et puis la parole est à toi.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Non ?
Oui.
Oui ? Est-ce que dans la salle, vous m'entendez ?
Oui.
Pierre, est-ce que tu m'entends ? Tu as coupé ton micro. Non, c'est pas ça ?
On t'entend très bien.
Très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon absence. Bien involontaire, et comme vous le voyez, c'était pas une excuse pour regarder le match. Je voulais remercier beaucoup cette année encore le Centre Sèvres pour cette soirée exceptionnelle déjà les autres années, mais cette année encore plus. Je voudrais rappeler le travail de toute l'équipe, que les Sources Chrétiennes, c'est toute une équipe, à la fois association et puis Isoma, CNRS, hein, Isabelle Bruntière, Yasmine Achel, Dominique Gonnet, Anna Lampadaridi, Laurence Mellerin, donc Bernard Meunier, Jean Reynard, Blandine Sauvelet, Catherine Cyr, Dominique Tinel. Et puis je pense aussi à Marie-Ange Calvet-Sébastie qui nous a quittés en janvier. Bien sûr, les sources chrétiennes, c'est aussi un conseil scientifique, des auteurs et des lecteurs. Et voilà, pour fêter les 80 ans, nous avons un beau bouquet de volumes cette année. Et bien sûr, les deux volumes sur la vie de Bernard sont assez significatifs de la place importante qu'a prise Bernard dans la collection. Alors, la collection, est-ce que c'est une histoire d'amour qui dure ? Je le pense, c'est le cas certainement de Neil Dancyre. Donc le volume 623, commentaire sur le Cantique des Cantiques. C'est l'histoire d'amour de l'âme avec Dieu à travers les siècles et à travers les commentaires patristiques et médiévaux successifs du Cantique, d'Origène à Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry, en passant par Grégoire de Nice, Apponius et Grégoire le Grand, pour ne citer que ceux présents dans la collection. C'est aussi une longue histoire d'amour que l'édition même du commentaire de Nil, dont Marie-Gabrielle Guérard, ingénieure de recherche honoraire au CNRS dans l'équipe des sources chrétiennes, a publié le premier tome. Une édition Princeps. En 1994, c'est le numéro 403 de la collection, et qu'elle a mûri patiemment jusqu'à ce second opus. Alors le commentaire sur le Cantique des Cantiques, c'est l'unique œuvre exégétique de Nil, de ce moine qui, à la fin du IVe et au début du Ve siècle, s'est aussi fait connaître par ses écrits ascétiques. Or, ce texte se signale comme le seul commentaire grec de l'ensemble du Cantique, en effet, de ce livre qui est le plus court de la Bible. Curieusement, les autres commentaires s'arrêtent avant la fin, à l'exception de celui d'Origène, dont ne subsistent que des traductions latines partielles. Alors, ce second tome donne à lire les paragraphes 80 à 141 qui commentent le Cantique du chapitre 4, début du chapitre 4 à la fin du chapitre 8, en filant la métaphore de la transformation de la prostituée que sa conversion va conduire à l'union spirituelle avec le Verbe de Dieu. Les principes de l'édition sont les mêmes, en somme, que dans le premier tome, tout en tenant compte de l'édition complète par Rosenbaum en 2004. Mais alors que celui-ci pense, en raison d'une tradition manuscrite quelque peu disparate, que le texte de Nil n'existe plus que sous la forme résumée d'extraits, et qu'il le reconstruit dans sa propre édition, l'éditrice croit plutôt qu'il est possible d'éditer le texte de Nil dans son intégralité, tel qu'il est, quasiment, tout en reconnaissant les lacunes et les faiblesses de la tradition manuscrite. Alors, malgré une langue difficile, l'ouvrage est indéniablement d'une qualité remarquable. Il parvient à commenter le poème biblique en tenant compte de sa structure quasiment théâtrale, puisqu'il en garde tous les personnages, cœur des jeunes filles, compagnons de l'époux, tout en lui conférant quasiment le sens d'un guide spirituel. À travers l'intrigue amoureuse, il mène l'âme du moine dans les méandres de sa vie spirituelle vers la plus haute union. Cette intrigue est aussi figure de l'histoire du salut, de l'échec apparent de la mort du Christ, à la gloire de sa résurrection et le triomphe de son ascension. L'auteur parvient à harmoniser les différents niveaux de lecture du texte, où le moine trouve, malgré ses propres difficultés, l'appui que lui fournit la vie ecclésiale et liturgique. Cette harmonisation se lit dans des pages d'une magnifique virtuosité. Il s'agit de comparer la structure interne de la grenade, dans une image déjà en partie traditionnelle, à l'organisation de l'Église, ou d'illustrer l'élévation alternée des deux amants au long du tronc du palmier, où Nil offre une lecture passionnante du texte. La grandeur est semblable au palmier, pour signifier l'élévation de ses vertus, qui s'appuie peu sur les réalités corporelles. Car de même que le palmier, avec peu de racines, qui ne sont pas profondément enfouies en terre, s'est dressé haut, sublime, de même, celle qui effleure de l'extrémité de ses pensées les réalités corporelles, à cause de la nécessité du corps, touche les réalités célestes elles-mêmes, ayant fait pousser son stipe de vertu jusqu'à une hauteur difficile à voir d'un coup. Or, pareille élévation de la taille d'une femme relève davantage du prodige que de la convenance, quoique l'analogie avec la nature fournisse un parallèle convenable. Nécessairement aussi, les seins d'une telle femme sont comparés aux grappes, puisqu'ils sont liés ensemble par l'amour de Dieu. Il en va en effet de la grappe du palmier comme de ceux qui sont liés ensemble par l'amour. Car ceux-ci physiquement séparés ont serré par leur disposition à l'unanimité, comme ceux dont il a été dit, la masse des croyants avait un seul cœur et une seule âme. Alors il semble bien, comme le dit Nil dans son prologue, que la lecture du Cantique était réservée à des croyants déjà avancés en âge et dans la vie spirituelle, du fait de son contenu érotique. Notre commentaire, en tout cas, en offre une magistrale illustration. Je passe à Hilaire de Poitiers, le volume 625, commentaire sur les psaumes, tome 5, une œuvre en pleine ascension, puisque Patrick Descourtieux entame avec ce tome 5 les commentaires portant sur les cantiques des degrés ou psaumes des montées, en tout cas les 8 premiers. Ces commentaires sur les psaumes 119 à 126, composés par Hilaire vers 360 et achevés après 364, poursuivent l'itinéraire constitué par la troisième cinquantaine du psautier. Pour Hilaire, il ne s'agit plus de parler de conversion, comme dans la première cinquantaine, ni d'acquérir les vertus, comme dans la deuxième, il s'agit d'envisager le royaume céleste dans la gloire. Ce sont 15 poèmes sacrés destinés à accompagner la montée du juif pieux, on le sait, ces cantiques des montées, vers le temple de Jérusalem au cours de ses pèlerinages annuels, en particulier lors de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des Tentes. En ce chiffre, 15, décomposé en 7 plus 8, Hilaire veut reconnaître le progrès et la montée de la loi à l'Évangile, de l'Ancien au Nouveau Testament, de la terre au ciel, de cette vie à l'autre. C'est ce qu'il explique dans son traité sur le psaume 119, dont le début sert de préface au cantique des degrés. Le traité sur le psaume 120, en particulier sur le verset « Je lève les yeux vers les montagnes », y voit le regard intérieur du croyant tourné vers les sommets des Écritures et la protection de Dieu offerte sur le chemin jusqu'à la mort, sortie vers l'éternité dont la porte d'entrée est le Christ. Dans le traité sur le psaume 121, le théologien évoque la joie de l'homme sauvé dans la Jérusalem céleste et s'interroge sur la possibilité d'un salut universel et sur le sens de la paix promise. Le traité sur le psaume 122 médite sur le ciel véritable qu'est le Christ, habitation de Dieu en chaque croyant, à qui il ne convient plus de regarder en arrière. Défendant l'unicité de Dieu et la divinité du Fils, l'évêque prêche l'espérance de la libération de l'esclavage du péché et des persécutions de la foi. Le traité sur le psaume 123 met en garde contre les dangers guettant l'homme heureux, à commencer par l'oubli de l'origine de son bonheur. Le traité sur le psaume 124, plaidoyer en faveur d'une recherche du sens spirituel des Écritures, alors que la destruction de Jérusalem empêche une lecture littérale, identifie la montagne de Sion à l'Église, jouissant de la contemplation du Christ et de l'aide de Dieu à travers les persécutions. Et là, c'est l'occasion pour Hilaire d'une sorte d'envolée lyrique, comme il y en a peu, il faut le dire, dans ce commentaire qui est quasi mot à mot. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, psaume 124.1. Le nom de Sion se traduit par contemplation. C'est donc ainsi que nous comprenons chez Daniel la montagne qui est le Seigneur, montagne devenue pierre et pierre redevenue montagne. Il s'est dépouillé de lui-même alors qu'il était de condition divine, il a pris la condition d'esclave. Et après avoir par sa passion mis à terre le monde avec ses superstitions et ses terreurs, il est dans la gloire de Dieu de Père et il est Dieu au-dessus de tout, dépouillé, et passé de l'état de montagne à celui de pierre, en raison de la faiblesse de la chair. Redevenu montagne, de pierre qu'il était, en raison de la gloire de sa passion, une montagne en surplomb et très élevée, dans laquelle nous nous contemplons nous-mêmes, car il a pris notre chair et notre corps. En lui, en effet, nous contemplons notre résurrection dans la résurrection de notre corps, en lui. Suivons l'apôtre, suivons l'évangile. Suivons le prophète, mettons notre confiance dans le Seigneur pour devenir semblable au corps de gloire de Dieu. Habitons maintenant l'Église, la Jérusalem céleste, de manière à être inébranlable à jamais. En habitant l'une, nous habiterons aussi l'autre parce que celle-ci est la forme de celle-là. Pour une part, nous connaissons, pour une part, nous prophétisons. Pour le moment, nous voyons en énigme dans un miroir, mais alors, nous verrons face à face. L'une est céleste et l'autre est céleste. L'une est Jérusalem et l'autre est Jérusalem. Vous voyez cette vision d'une double Jérusalem qui finissent par se joindre. Je passe sur les autres psaumes. En tout cas, dans l'attente des degrés suivants, nous ne pouvons qu'encourager notre cher Patrick Descourtieux à poursuivre son ascension, dont la prochaine étape pourrait être le psaume 133, sommet des psaumes des montées, ou encore au-delà. J'en viens maintenant à Dadisho Kataraya, commentaire sur le Paradis des Pères, tome 1, volume 626. Alors nous ignorons presque tout de la vie de Dadisho Kataraya, originaire de Bet Kataraya, nom antique de la région côtière méridionale du golfe Persique. Il a vécu au 7e siècle dans plusieurs monastères, dans une région qui correspond aujourd'hui à des bouts du Koweït, de l'Irak et de l'Iran. Il se trouve que dimanche dernier, une pleine page du journal Le Progrès était consacré à notre volume, sous le titre « Un texte écrit il y a 1400 ans dans la région du Qatar, édité à Lyon ». Avec un rien opportuniste, le mondial de foot dans la langue de Jésus, et même une vidéo sur le site où Dominique Gonnet chante en syriaque les louanges de Mbappé, la perle de la sphère de pied. Comment traduire football ? Alors une tribune bienvenue quand même pour mieux faire connaître une littérature et un patrimoine trop méconnu dans cette partie du monde, à commencer par Dadisho. surnommé le voyant, Tadichaud est un témoin important de la littérature ascétique et mystique de l'Église syro-orientale, qui a connu un essor particulièrement riche au 7e siècle. De son œuvre écrite en syriaque sont conservés le commentaire sur le paradis des pères, donc le commentaire sur le livre d'Abba Isaïe également, la collection des discours sur la quiétude, ainsi qu'une lettre, seul témoin connu, de sa production épistolaire. Alors presque entièrement inédit jusqu'ici, le commentaire sur le paradis des pères est unique, étant le seul commentaire continu à l'époque ancienne de cette collection d'apophtegmes des moines du désert d'Égypte, transmis sur le titre de « Paradis des pères », qui est l'un des textes fondateurs du monachisme chrétien. Le commentaire se présente sous forme de dialogue, Tadichaud répondant aux questions, pas moins de 291 dans l'état originel du texte, de ses frères. L'ouvrage est divisé en deux grandes parties. La première, comportant 108 questions et réponses, avec une lacune, couvre les trois premiers livres du paradis, sous les noms de Palade et de Jérôme, tandis que la seconde, bien plus développée, avec 183 questions et réponses, couvre les apophtegmes à proprement parler. Combinant une grande érudition, avec de précieuses remarques sur l'état du texte et sa réception, une attention aux réalités de la vie spirituelle, l'auteur dévoile à ses lecteurs le sens profond des messages, des passages qu'il commente. Héritier des grands maîtres spirituels tels Évagre le Pontique, chez qui il puisera ses sources d'inspiration, le commentaire a conservé bon nombre de passages autrement perdus, notamment de Théodore de Montpiest. Mais loin d'être un simple continuateur de ses prédécesseurs, Benito est aussi un penseur original qui développe une véritable synthèse théologique de la christologie et de la voie monastique. Son ton est parfois vif, comme le montre ce passage. Question des frères. Comment se fait-il, alors que chez nos premiers pères, dans un monastère qui comptait 1000 frères, deux seuls suffisaient pour son service, tandis que dans notre monastère, où il y a, disons, 55 frères, seuls 5 vivent dans la quiétude et demeurent continuellement dans l'excellence, tandis que 50 autres entrent et sortent sans relâche et sans repos à cause de leur service. Réponse de Tadichaud. À cause de l'amour du labeur et de l'observance chez les premiers, et à cause de l'amour des plaisirs et du relâchement chez nous actuellement. Pour dire la vérité, c'est plutôt à cause de la mollesse et de l'ignorance des dirigeants des monastères. Au premier temps, beaucoup de frères étaient solitaires, reclus et aimaient la quiétude, et peu d'entre eux voyageaient, entraient dans les villes ou s'occupaient des tâches extérieures. Mais maintenant, de nos jours, dans une communauté où il y a 55 frères, comme vous l'avez dit, seuls 5 demeurent dans la quiétude à l'intérieur, et les autres peinent sans relâche à accomplir les tâches à l'extérieur. Ceci reproche aux 5 qui sont à l'intérieur, en murmurant contre eux, de ne pas sortir avec eux aussi pour le service à l'extérieur. Comme si, à cause des paroles de ces idiots présomptueux, toutes les vertus pratiquées dans les monastères devaient être détruites et réduites à néant. Voici ce que je veux dire par là. Les pères ont établi 3 divisions dans l'ensemble de la pratique des moines. Ceux qui demeurent dans une belle quiétude, les malades qui rendent grâce, et ceux qui servent le solitaire ou le malade avec une pensée bonne. Ceux qui servent péniblement les solitaires et les malades, qui devraient d'après eux sortir et servir avec eux, qui serviraient-ils donc s'il n'y avait pas de malade qui rend grâce ou personne qui demeure dans une belle quiétude? Serait-ce ceux-ci qui devraient servir cela, c'est-à-dire que les bien portants devraient servir les bien portants? Ou bien, ce qui serait encore plus audacieux et stupide, les bien portants et les robustes devraient-ils être servis par ceux qui demeurent dans une belle quiétude et par les malades qui rendent grâce? Il faut que ces sots comprennent que si dans un monastère de frères il n'y a personne qui demeure dans la quiétude, de frères malades qui rendent grâce ou de vieillards infirmes, alors tout le travail de ceux qui servent devient un travail séculier sans récompense. C'est-à-dire qu'il est largement inférieur à celui des séculiers parce que ceux-là travaillent pour leurs femmes, leurs enfants et les rois et font l'aumône aux nécessiteux. Ceux-ci, par contre, ne servent qu'eux-mêmes et ainsi les séculiers leur sont bien meilleurs. Voilà un sacré morceau de diatribe. Alors, ce volume 626, c'est le premier des 3 programmés pour l'édition intégrale du commentaire et comporte l'introduction et la première partie du texte. Les 2 autres tomes devraient paraître fin janvier. Grâce à David Phillips, chercheur à Louvain, ce sera pour les sources chrétiennes la première édition critique d'envergure d'un texte syriaque, avec les avantages et les désavantages d'une édition Princeps, forcément fautive, mais largement méritante. Tous les collègues de l'équipe et d'ailleurs qui nous ont aidés auront peut-être fait une expérience très personnelle de ce paradis qui est aussi et d'abord un enfer, que ce soit celui du combat spirituel ou bien un purgatoire des coquilles. Alors, je crains d'être trop long et je vous prie de m'excuser, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ambroise de Milan sur la mort de Théodose, volume 629. C'est le 17 janvier 395. Que Théodose Ier meurt presque subitement à Milan, âgé d'à peine 50 ans. Au mois de septembre précédent, il a triomphé à la bataille du Frigidus de l'usurpateur Eugène. Et à cette date, longtemps charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, le pouvoir impérial n'est pas pleinement assuré. D'autant que Théodose laisse deux fils, âgés seulement de 17 et 10 ans, Arcadius et Honorius. Lors de la liturgie des funérailles célébrée 40 jours plus tard, Ambroise, qui s'était entretenu peu de temps auparavant avec l'empereur, est pleinement conscient de la gravité de la situation politique. Il invite les deux fils à continuer l'œuvre de leur père. Dans un éloge des vertus chrétiennes, il prône la clémence, puis il met les paroles du psaume, le 114, dans la bouche de Théodose pour développer ensuite l'éloge de l'empereur défunt, avant d'évoquer pour finir les retrouvailles célestes. Alors, il ne faut pas chercher dans cette oraison funèbre les articulations ou les thèmes préconisés par les rhéteurs. Les sentiments qu'éprouve personnellement Ambroise découlent du psaume 114 de manière assez curieuse, mais c'est le psaume utilisé dans la liturgie qui se déroule à l'église. Voilà, je vais peut-être souligner le fait qu'on a un récit de l'invention de la croix par Hélène, donc qui est l'un des voilà, c'est l'une des sources dont nous disposons pour cet épisode très célèbre. Alors, parmi les plus beaux morceaux d'éloquence que revêt cette oraison funèbre, on découvrira une fois de plus comment Ambroise, sans avoir peur de contraster les registres, tente de faire passer un message politique et social sans qu'on sache si c'est en faveur des pauvres ou des riches. Je lis au moins une partie de ça. Le départ d'un prince si grand qui avait déjà tout remis à ses fils, empire, puissance, titre d'Auguste, n'a rien eu de plus de glorieux. Rien, dis-je, ne lui fut réservé de plus beau dans la mort que le fait que voici la suppression de la taxe sur la nonne. Voilà, je vous laisse apprécier ce passage comme d'autres de ce livre, qui est aussi à sa façon un hommage posthume à un empereur des études patristiques latines, à savoir Yves-Marie Duval, dont Benoît Gard a ici tiré le meilleur des travaux conservés. Le lecteur bénéficie aussi de la nouvelle édition du texte latin par Victoria Zimmermann-Panagol, ici reprise, et d'un prix somme toute conforme aux souhaits impériaux et ambrosiens, 30 euros seulement, et ceci grâce notamment au Centre national du livre, dont le soutien régulier, mais à des conditions de plus en plus restrictives, est capital pour nombre de nos volumes. J'en viens au numéro 630, toujours Ambroise de Milan, sur la mort de Valentinien II. Et oui, c'est un heureux concours de circonstances qui fait qu'une autre oraison funèbre d'empereur est venue de manière concomitante dans notre planning, et même pour 20 euros seulement, si vous voulez savoir. C'est l'oraison plus personnelle qu'Ambroise avait déjà prononcée pour l'empereur Valentinien II en juillet-août 392, plus de 2 mois après la mort du prince. Alors, il y a des questions politiques qui se pose, suicide ou assassinat, Ambroise ne répond pas. Les historiens continuent à se poser la question. Ce qui est intéressant ici, c'est que Ambroise avait promis à Valentinien de le baptiser. Et il devait le rejoindre et il n'a pas pu le rejoindre. Valentinien n'a pas attendu. Et donc, Ambroise doit, au moment de la mort de Valentinien, affronter ce remords de ne pas l'avoir baptisé, mais bien sûr, il défend le baptême de désir qui était celui de Valentinien comme étant un baptême valable. Voilà, je dois passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, et de manière très surprenante, une exégèse, on avait le psaume 114 dans l'autre oraison, cette fois-ci c'est le Cantique des Cantiques, et donc on pourra comparer, si vous êtes curieux, vous pouvez comparer avec le commentaire de Neil sur les yeux, les joues de la belle, du bien-aimé. Voilà. Alors, je voudrais saluer ici le 8e volume de Guy Sabat dans la collection, Guy Sabat qui a encore s'entouré de précieux amis, le regretté Laurent Liviel de La Baumelle et son collègue de Lyon 2, et qu'on perd déjà pour le volume de Martin de Braga, à savoir Jean-François Berthet. Voilà, donc je suis désolé d'avoir été un petit peu long. Je vous remercie encore et je passe la parole à Laurence qui a pas moins de 3 volumes médiévaux sur le métier cette année.
Merci beaucoup Guillaume pour ton intervention. Du coup, on va redonner la parole brièvement à Laurence pour présenter ce dernier volume. Et du coup, je vais changer de présentation.
Non, c'est la même. Si Guillaume la partage encore. Voilà. Donc ce dernier volume, c'est encore un volume bleu médiéval, c'est pour ça que je vous le présente. C'est le dernier volume des œuvres complètes d'Isaac de l'Étoile dans la collection, donc abbé cistercien du XIIe siècle. On avait déjà ses sermons et maintenant on aura donc ces deux lettres traitées, la lettre sur l'âme et la lettre sur le canon de la messe. Donc les éditions critiques ont été faites dans des revues que Source Chrétienne a pu reprendre, et le volume se caractérise par une introduction très, très développée avec des informations nouvelles sur la biographie d'Isaac de l'Étoile, qui était un sujet peu sûr, et puis aussi sur ses lectures et ses sources. Donc la lettre sur l'âme, tout d'abord, est un texte très important parce que elle a été transmise largement au XIIIe siècle dans un traité anonyme qui s'appelle le De Spiritu et Anima, qui a été longtemps attribué à Augustin et de ce fait largement diffusé. Donc dans ce texte, il n'explique pas ce qu'est l'âme avant le péché, sous le péché ou après le péché, mais il va traiter vraiment des questions anthropologiques et philosophiques, à savoir la nature de l'âme et ses forces, comment elle est dans le corps et comment elle en sort. Et le tout à partir d'une hiérarchie paradoxale du réel. A priori, le corps nous semble plus accessible que l'âme et a fortiori que Dieu. Et pourtant, si on se place dans une hiérarchie de la vérité, le plus proche, c'est Dieu qui est la vérité même. Et l'âme est une image de la vérité et le corps seulement une trace de cette vérité. Du coup, le parcours que propose Isaac est un parcours ascensionnel de l'âme qui occupe une position charnelle dans la hiérarchie des êtres entre le corps et Dieu. Et donc elle va s'élever, alors je vous fais grâce de détails de la construction philosophique, mais en tout cas, ce qui prédomine dans ce texte, c'est une partition de l'âme en 5 puissances. D'abord le sens, ce par quoi elle connaît les corps. Ensuite, l'imagination qui connaît les ressemblances des corps. Ensuite, le presque corps. L'imagination qui connaît le presque corps, voilà, c'est ça. Et la raison, ensuite, troisième étape, qui connaît le presque incorporel, c'est-à-dire ce qui nécessite un corps pour exister. Au-dessus, on a encore l'intellect, qui connaît le vraiment incorporel, qui ne nécessite ni corps ni lieu, mais qui est muable par nature. Mais en revanche, qui n'a pas de temporalité. Et enfin, le cinquième stade, c'est l'intelligence, qui, elle, connaît Dieu, qui est le purement incorporel, immuable, parce qu'il n'a pas besoin de corps, mais qui n'a pas non plus besoin, donc, de temps. Donc, c'est des hiérarchies assez arides. Cependant, elles laissent à Isaac l'occasion de déployer la puissance métaphorique de son style. Et je vous en cite un passage, je pense qu'il est sur la diapo suivante, voilà, oui, c'est ça. Ainsi donc, le soleil, émergeant du monde souterrain, languissant dans la vapeur nébuleuse des eaux et des marais, se montre rouge d'abord plutôt que brillant, puis s'échappant au sortir des nuées qu'il a refoulées vers la liberté d'un air plus pur, resplendit en toute sérénité. De même, assurément, l'âme, se dégageant de la simple animation de la chair pour parvenir au sens, puis l'outrepassant à l'imagination, qui est au-delà du sens, languissant alors, encore altérée par les visions des corps, se lève et resplendit enfin, déployée dans la limpidité de la raison. Quant à la lettre sur le canon de la messe, elle est beaucoup plus brève. Et Isaac y déploie, à la demande de l'évêque de Poitiers, Jean de Bellemain, ses dispositions spirituelles pendant qu'il célèbre l'Eucharistie. Et il va décrire le rituel du canon comme une démarche pénitentielle structurée en 3 étapes. D'abord, il va offrir une interprétation allégorique des 3 autels et des 3 sacrifices du tabernacle de Moïse, avec les sacrifices d'animaux, les sacrifices d'encens et puis le Saint des Saints. et il va montrer comment cette progression se matérialise dans le cœur humain, dans le cœur du célébrant, de la pénitence à la contemplation, en passant par les délices de la dévotion. Donc, plusieurs structurations en trois lieux, en trois temps. Bon, je vous passe, et puis une comparaison où il montre que le prêtre est transformé d'antique Melchisédek en un nouveau Jésus, né esprit de l'esprit. La liturgie terrestre finit par rejoindre la liturgie céleste dans la célébration du canon. Et il est à noter que si l'approche du rituel dans ce texte est très personnelle, très individuelle, ce qui reflète les usages de la pratique eucharistique au XIIe siècle, la perspective d'Isaac consonne avec ce qui est sans doute le point le plus connu de son œuvre, à savoir sa théologie du Christ total qui s'épanouit dans ses sermons. Et je voulais vous montrer sur un exemple qu'on la trouve aussi dans ce traité. Toute l'action des sacrements célestes sert à cette fin, que unis éternellement par le Christ au Dieu un, nous nous réjouissons en lui, nous nous réjouissions en lui. C'est pourquoi nous, qui sommes nombreux, nous sommes un seul pain, un seul corps. Cependant, nous n'avons pas plusieurs têtes, mais une seule, dont la tête est Dieu. Puisque nombreux, nous sommes unis par un seul, en un seul, pour un seul, nous avons été faits un seul esprit avec lui. Voilà.
Merci beaucoup, Laurence. Donc, nous enchaînons avec la dernière partie de cette soirée. C'est donc Michel Fédou qui va prendre la parole. Michel Fédou, qui est jésuite, professeur au Centre Sèvres, qui a de nombreuses spécialités, notamment la patristique grecque, mais plus largement la théologie dogmatique. C'est pour tous ses ouvrages qu'il a reçu récemment, le 1er décembre, le prix Ratzinger. Et il est également le co-titulaire de la chaire de théologie écuménique avec Anne-Cathy Graber du Chemin Neuf. Donc ce soir, il va nous présenter à la fois les apports de la collection des sources chrétiennes et les enjeux de la pensée des pères pour la théologie et peut-être également pour la philosophie contemporaine.
Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, il nous a semblé que dans le cadre d'une institution comme le Centre Sèvres, qui comprend une faculté de philosophie et une faculté de théologie, il importait de proposer, à l'occasion du 80e anniversaire de la collection sources chrétiennes, une réflexion sur les enjeux de cette collection pour les disciplines qui sont ici enseignées. Je suis heureux de saluer, entre autres, Guillaume Badi, qui est en distanciel, et aussi le frère Lionel Gentry, qui représente les éditions du CERF, auxquelles les sources chrétiennes est tellement redevable depuis les origines. Dans les limites du temps imparti, je parlerai surtout des enjeux de sources chrétiennes pour la théologie, mais sans oublier l'autre discipline, la philosophie, à laquelle je ferai également référence. Je rappellerai d'abord les enjeux de la collection aux origines et les évolutions qui sont intervenues depuis lors. Je ferai quelques remarques sur ces évolutions et sur les conséquences qui en découlent, et je tenterai finalement de dire comment je vois aujourd'hui même les enjeux de sources chrétiennes pour la pensée chrétienne. Le véritable inspirateur de la collection sources chrétiennes, ce fut le père Victor Fontoinon, et nous avons connaissance d'une note du père Fontoinon, une note qui date sans doute de 1937, et dans laquelle Victor Fontoinon précisait les raisons d'être de la collection sources chrétiennes à venir. Il ressort de cette note que, dans l'esprit de Victor Fontoinon, la collection sources chrétiennes devait avoir principalement trois enjeux. D'abord, permettre un renouveau de la pensée chrétienne, non pas simplement, notons-le, de la théologie, il disait la pensée chrétienne plus largement, cela pour mieux répondre aux questions du monde présent, en retrouvant, en amont du néotomisme jugé trop abstrait et intemporel, les sources vives de la tradition chrétienne en ses premiers développements. Premier enjeu. Deuxième enjeu, ouvrir l'Occident à la connaissance des pères grecs et favoriser ainsi l'union des chrétiens selon son propre langage. Naturellement, nous le savons, la collection sources chrétiennes allait rapidement accueillir aussi des écrits d'auteurs latins, mais la perspective œcuménique des origines mérite d'être rappelée. Enfin, troisième enjeu, rendre possible un renouveau des disciplines théologiques elles-mêmes. Comme on le voit, La collection Source chrétienne était d'abord voulue pour la contribution qu'elle devait apporter à la pensée chrétienne et à la vie de l'Église. Et les fondateurs de la collection, Henri de Lubac et Jean Danielou, partageaient pleinement cette conviction. Néanmoins, assez rapidement, et surtout à partir des années 1950, des évolutions majeures sont intervenues dans le champ des études patristiques et, du même coup, elles ont rejailli sur l'entreprise des sources chrétiennes. La première évolution, c'est que les écrits patristiques, qui jusque-là étaient, non pas exclusivement certes, mais particulièrement étudiés dans les séminaires et dans les facultés de théologie, les écrits patristiques ont été davantage étudiés dans les milieux universitaires. Pensons notamment à Henri-Irénée Maroux et à sa chaire d'histoire du christianisme à la Sorbonne. Celui qui devint bientôt le directeur de la collection Source chrétienne et qui œuvra tant pour elle, le père Claude Montdésert, prit vraiment acte de cette évolution et développa considérablement les relations avec les milieux universitaires. La deuxième évolution, pour une part liée à la précédente, est que les écrits patristiques, qui auparavant étaient souvent étudiés dans une perspective théologique, ont été aussi, et de plus en plus, étudiés du point de vue de la philologie, de l'histoire, de la sociologie ou d'autres disciplines encore. Ce phénomène n'était évidemment pas nouveau. Il y avait bien eu de tels travaux dans les siècles précédents, et notamment au XIXe siècle, mais ce phénomène s'est trouvé considérablement amplifié. Et là encore, la collection en a tenu compte, comme on le voit par les introductions des volumes de sources chrétiennes qui, au fil du temps, ont donné une place croissante aux enquêtes philologiques ou historiques sur les textes ainsi édités. Troisième évolution, l'internationalisation croissante des études patristiques. Et là encore, l'Institut Sources chrétiennes en a pris acte, non seulement par le réseau de ses collaborateurs, mais par sa participation à des colloques tels que le célèbre colloque patristique d'Oxford, qui se réunit tous les 4 ans depuis 1951. Je relève encore 2 évolutions fort importantes. D'abord, l'ouverture des patrologues aux études médiévales et réciproquement, ce qui s'est notamment traduit pour Source chrétienne par la belle entreprise de l'édition de Bernard de Clairvaux. Et ensuite, le développement croissant des travaux sur les christianismes orientaux, ce dont la collection a pris également acte en commençant à éditer certains écrits de la patrologie orientale, comme en particulier l'œuvre d'Ephrem, mais tout à l'heure aussi nous avons entendu parler du commentaire sur le paradis des pères. Ces évolutions fort importantes, auxquelles il faudrait ajouter les évolutions de la théologie dogmatique et de la théologie fondamentale elle-même, plus consciente que jadis de la distance historique entre l'époque actuelle et l'époque patristique, ces évolutions conduisent de même coup à comprendre de manière nouvelle la position des philosophes et théologiens par rapport à cette littérature du christianisme ancien. Je ferai à ce sujet, c'est mon deuxième point, je ferai à ce sujet trois remarques, avant de préciser pour finir quelques enjeux spécifiques du travail sur les sources chrétiennes au bénéfice même de la théologie. Ma première remarque est un simple constat. Si importantes qu'aient été les évolutions précédemment décrites, elles n'ont pas empêché des philosophes et des théologiens, jusque dans ces toutes dernières décennies et aujourd'hui encore, de trouver dans des textes patristiques des sources d'inspiration pour leurs pensées. Cela se vérifie avant tout dans le cas de la philosophie à propos d'Augustin. Augustin qui certes n'est pratiquement pas édité par Source chrétienne, puisqu'il l'est par ailleurs excellemment dans la bibliothèque augustinienne, mais Augustin qu'il est évidemment impossible de ne pas mentionner ici. La collection Source chrétienne a tout de même édité le commentaire d'Augustin sur la première épître de Jean, ainsi que des sermons sur la Pâque. Il n'est guère besoin de rappeler l'impressionnante fécondité de cet auteur, Augustin, dans la philosophie contemporaine. Qu'il suffise de rappeler à titre d'exemple les analyses de Paul Ricoeur dans « Temps et récits » ou bien, dans une toute autre perspective, celle de Jean-Luc Marion dans son livre « Au lieu de soi, l'approche de saint Augustin ». Mais d'autres penseurs qu'Augustin ont aussi été source d'inspiration pour des philosophes de notre temps. Ainsi, Clément d'Alexandrie et d'autres auteurs étudiés par Michel Foucault dans le tome 4 de son « Histoire de la sexualité » des aveux de la chair, ou encore Irénée, qui est convoqué par Michel Henry et aussi par Emmanuel Falk dans leur réflexion philosophique sur la chair, ou encore Denis Laropagite, dont nous avons une très belle édition des noms divins, grâce à Isabelle Néandia, Denis Laropagite, qui ne cesse de retenir l'attention des philosophes aujourd'hui comme hier. Les sources chrétiennes ont été en tout cas une source d'inspiration pour les théologiens de toutes ces dernières décennies. On le vérifie entre autres par l'œuvre de Joseph Moin, dont le travail sur la théologie trinitaire de Tertullien portait en germe les considérations de son futur livre « Dieu qui vient à l'homme » sur la relation entre la Trinité immanente et la Trinité économique. Autre exemple, Bernard Cesbouet, dont la christologie et la théologie trinitaire doivent tant à ses travaux sur Irénée et Basile de Césarée. Ou encore Michel Corbin, qui développe depuis une bonne dizaine d'années une lecture théologique d'auteurs comme Basile, Grégoire de Nice, Hilaire de Poitiers ou Denis Laropagite. Ma deuxième remarque, quelque peu paradoxale par rapport à mon sujet, c'est que le philosophe ou le théologien aujourd'hui doit prendre pleinement acte du fait que la collection sources chrétiennes, en quelque sorte, a déjà sa justification en soi, sans qu'on reconnaisse immédiatement au texte édité un intérêt ou un enjeu philosophique ou théologique. C'est là, je le reconnais, une situation assez nouvelle par rapport à l'époque des origines. Il n'est pas d'abord demandé au volume de la collection de contribuer au renouveau de la pensée, comme le voulait jadis le père Victor Fontoinon, mais compte tenu des évolutions que j'ai rappelées à l'instant, il est d'abord demandé à ces volumes d'éditer scientifiquement des textes du christianisme ancien, d'en donner une traduction et une annotation de grande qualité, et de les faire précéder d'une introduction aussi juste et pertinente que possible. Cette introduction doit naturellement, quand cela s'y prête, manifester la portée philosophique ou théologique des textes, mais les volumes ont déjà leur raison d'être en eux-mêmes par le simple fait qu'ils mettent à la disposition des lecteurs des textes anciens, dûment édités, traduits et annotés. Cette situation nouvelle ne doit certes pas dissuader de trouver encore dans les sources chrétiennes une source d'inspiration pour la pensée contemporaine. Je vais y venir à l'instant. Mais, c'est ma troisième remarque, cette situation nouvelle implique que le théologien ou le philosophe s'efforce le plus possible de prendre en compte scrupuleusement le contexte des écrits anciens, les apports de la philologie, ceux de l'histoire et des autres disciplines qui aident à comprendre le sens de ces écrits. Pour cette raison même, les études patristiques ne cherchent pas à contribuer directement ou immédiatement à la pensée chrétienne, mais c'est par leur manière même d'interpréter les écrits des pères dans leur contexte qu'elles peuvent apporter effectivement une telle contribution. On peut le vérifier par exemple avec l'ouvrage d'Alain Le Bouluec sur la littérature hérésiologique des 2e-3e siècles, un ouvrage qui contribue indirectement à renouveler la problématique du rapport entre orthodoxie et hérésie. On peut le vérifier aussi avec le livre d'Isabelle Bauchet, « Le firmament de l'écriture », avec ce livre qui a beaucoup d'enjeux pour une réflexion sur l'herméneutique biblique, ou encore avec le livre d'Alban Massy sur le Contra Faustum d'Augustin, qui nous fait réfléchir aujourd'hui même, indirectement, mais réellement, sur les rapports du christianisme et du peuple juif, ou bien encore avec le livre de Pierre Molinier sur les homélies de Jean Chrysostome sur la seconde épître aux Corinthiens, dont il est clair que les analyses proposées dans ce livre ont un enjeu important pour une réflexion sur ce qu'est la prédication, l'acte même de prêcher. On pourrait mentionner encore plus récemment la thèse soutenue par Uwe Hermes, Étienne Pécarta, dont les implications pour une réflexion théologique sur le péché sont tout à fait importantes. Donc, il me semble important de souligner cela, il n'y a pas aujourd'hui à contourner la contextualisation, il n'y a pas à contourner les apports des disciplines telles que la philologie, l'histoire et d'autres disciplines, mais il y a à les recueillir et à les intégrer dans la tâche même de la pensée philosophique ou théologique. Il y va d'une exigence de crédibilité vis-à-vis des philologues et historiens, mais il y va aussi, plus fondamentalement, d'une juste posture herméneutique, car l'interprétation d'un auteur ancien ne peut pas être immédiate, elle ne peut pas consister à instrumentaliser indûment les textes anciens, elle ne peut pas faire l'économie de ce que les diverses disciplines autorisent à dire à leurs propos. Mais, si une telle exigence est vraiment respectée, alors oui, la pensée philosophique ou théologique peut et doit continuer de trouver dans les sources chrétiennes de quoi nourrir et féconder ses propres tâches. Je voudrais justement le montrer en terminant, et je le ferai en soulignant quatre enjeux particulièrement importants. Je me limiterai ici à des enjeux théologiques, sans revenir sur la philosophie. Le premier enjeu concerne l'exégèse et la théologie biblique, si abondamment représentée dans la collection Sources chrétiennes, et pour laquelle nous disposons aujourd'hui d'un remarquable instrument de travail avec Bibleindex, grâce à Laurence Mellerin notamment. Il est clair que l'exégèse patristique, bien souvent, ne peut pas être reprise telle quelle par l'exégèse contemporaine. Mais une fois qu'on a admis les différences fondamentales entre l'interprétation traditionnelle de la Bible, qui fait largement appel à l'allégorie, et son interprétation moderne, qui se doit de respecter d'abord les méthodes et les acquis de l'exégèse critique, on peut alors reconnaître comment les textes patristiques demeurent eux-mêmes porteurs de ressources spécifiques sur ce terrain. D'une part, les textes grecs des premiers siècles nous font davantage connaître la Bible d'Alexandrie, dont l'édition, naguère lancée par Marguerite Arles, augmente considérablement notre connaissance du Premier Testament. D'autre part, des écrits patristiques, non seulement grecs, mais latins, syriaques et autres, enrichissent l'histoire des interprétations, dont on sait qu'elle doit être précisément prise en compte par l'exégèse contemporaine. Non seulement d'ailleurs parce qu'il importe de retrouver autant que possible le sens originel des versets bibliques en amont de leurs lectures ultérieures, mais aussi en sens inverse, parce que l'interprétation des pères peut, dans certains cas, faire paraître telle ou telle signification oubliée du texte biblique. En outre, l'exégèse patristique, comme celle de Bernard de Clairvaux plus tard, invite à réfléchir sur l'acte même de la lecture biblique, qui se doit d'être attentive à la lettre du texte scripturaire, mais qui, cela reconnu, doit aussi laisser résonner ce texte dans toutes ses dimensions, dans toutes ses virtualités, comme y invitait déjà Grégoire le Grand lorsqu'il osait dire que les Écritures croissent avec ceux qui les lisent. Le deuxième enjeu des sources chrétiennes pour la théologie est évidemment son apport à la dogmatique, en même temps qu'à la réflexion ecclésiologique ou pastorale et à la théologie spirituelle. Il n'est guère besoin de développer longuement cet aspect, je me contenterai de l'illustrer par trois exemples. Pour la théologie trinitaire et la christologie, tout d'abord, la collection sources chrétiennes inclut désormais des œuvres aussi fondamentales que le De Trinitate d'Hilaire, le Contronome de Basile, les sermons de Léon le Grand ou la foi orthodoxe de Jean Damascène. À quoi s'ajoutent des volumes directement liés au concile d'Éphèse et Chalcédoine, comme l'abrégé de l'histoire des Nestoriens et des Eutychiens par le diacre Liberatus. Pensons aussi à tous ces volumes d'historiens qui exposent l'histoire de l'Église au IVe-Ve siècle, les histoires ecclésiastiques de d'Eusèbe, de Socrate, de Sozomène et de Théodoré de Cyre, sans oublier l'histoire ecclésiastique de l'Arien Philostorge. Il y a là une mine pour les théologiens qui ne peuvent pas traiter de christologie ou de théologie trinitaire sans repasser sans cesse par l'histoire des doctrines anciennes et des débats auxquels elles donnèrent lieu. Pour l'ecclésiologie, la sacramentaire et la pastorale, en deuxième lieu, la collection offre aussi un éventail de plus en plus riche qui, là encore, peut féconder la réflexion théologique. Les lettres d'Ignace, des catéchèses mystagogiques de Cyril de Jérusalem, des catéchèses baptismales de Jean Chrysostome, parmi bien d'autres œuvres. Je soulignerai en particulier que les difficultés, les épreuves de l'Église en notre temps rendent d'autant plus nécessaire un travail théologique de fond sur l'Église des premiers siècles, sur sa genèse, sur ses développements, sur les crises qu'elle a connues et sur la manière dont elle les a traversées. Quant à la théologie spirituelle, présente dès le premier volume de la collection, avec la vie de Moïse de Grégoire de Nice, Elle s'est constamment enrichie avec la publication de nouveaux volumes, parmi lesquels je mentionnerai en particulier des apophthegmes des Pères du désert, jadis traduits par Jean-Claude Guy, et bientôt d'autres œuvres de la littérature monastique. Un troisième enjeu mérite d'être mentionné, l'enjeu œcuménique. Non pas que la période patristique ait été une période modèle en la matière. L'Église a alors connu de très graves divisions, et celles qui ont été occasionnées au Ve siècle par les controverses christologiques n'ont pas encore été surmontées. Mais c'est néanmoins un travail sur les textes patristiques qui, entre autres, a au moins permis des textes d'accord entre l'Église catholique et les patriarches de certaines églises de tradition miaphysite ou de tradition déphysite. L'exploration croissante de la patrologie orientale devrait, espérons-le, permettre d'avancer encore sur ce chemin. Surtout, la littérature patristique, c'est une banalité de le rappeler, la littérature patristique est antérieure aux grandes divisions qui sont survenues au XIe siècle entre grecs et latins et au XVIe siècle avec les divers courants de la Réforme. Le dialogue œcuménique ne peut avancer si l'on part seulement des positions qui se sont affrontées dans ces périodes du XIe siècle et du XVIe siècle. Le dialogue œcuménique a par contre chance de progresser si les diverses églises, outre un travail commun sur les Écritures, explorent ensemble le patrimoine de la littérature patristique qui est précisément leur héritage commun. Cela, heureusement, a commencé et a déjà porté des fruits, mais la tâche reste largement à accomplir. Le dialogue entre catholiques et protestants ne pourra que gagner à poursuivre l'étude de ce qu'Augustin a réellement pensé sur la grâce et la liberté ou le péché. Quant aux relations avec l'Orient, l'intuition du père Victor Fontenon garde toute sa valeur. Une meilleure connaissance des pères grecs est certainement, aujourd'hui comme hier, l'une des voies les plus sûres pour entretenir et développer un dialogue entre catholiques et orthodoxes. Le dernier enjeu que je voudrais mentionner concerne les théologies dites contextuelles qui se développent sur d'autres continents que l'Europe. Il existe certes, ici ou là, des mises en cause d'une théologie qui serait simplement importée du monde méditerranéen. Et des théologiens ont pu plaider pour que les communautés chrétiennes s'en affranchissent entièrement. Mais il est non moins remarquable que d'autres théologiens trouvent dans des écrits patristiques des ressources au bénéfice de leurs propres tâches dans leurs divers continents. En Amérique latine, certains auteurs ont pu, pour soutenir leur dénonciation de l'injustice, invoquer des auteurs qui se sont vigoureusement engagés dans ce sens, tels Basile ou Jean Chrysostome au IVe siècle. En Afrique, des théologiens reconnaissent aujourd'hui que les pères ont pu fournir en leur temps un vrai travail d'inculturation avant la lettre, et l'exemple de ces pères les stimule dans l'élaboration de langages ou de formes de vie qui soient significatives dans leur propre contexte. Je cite l'un de ces théologiens africains contemporains, Timon Kanza. L'interculturalité, dit-il, nous rappelle que les sources chrétiennes sont porteuses d'une tradition qui a depuis le début confronté la parole de Dieu et le récit du salut à la rencontre avec la culture hellène. L'audace des pères doit de nouveau inspirer la recherche et l'étude de la théologie en Afrique. Il y a trop de ressemblances entre leurs préoccupations et les nôtres, entre les bruits qui agitent notre époque et la leur. Aussi, l'étude de la théologie des pères est une obligation pour nous. Fin de citation. Quant à l'Asie, on peut d'abord rappeler le mot de l'abbé Monchanin, qui, parti en Inde pour fonder un ashram en 1939, concevait sa tentative comme une tentative analogue à celle de Justin et de Clément d'Alexandrie au IIe siècle. Je cite Jules Monchanin, « Ce que Saint Justin, martyr, et Clément d'Alexandrie, philosophe, ont dit de la Grèce peut très bien être appliqué à l'Inde. Le Logos préparait mystérieusement la voie pour sa venue, et l'Esprit-Saint stimulait de l'intérieur la recherche des plus purs parmi les sages grecs. Le Logos et l'Esprit-Saint sont encore à l'œuvre et de semblable manière dans les profondeurs de l'âme indienne. » Plus récemment, certes, le théologien sri-lankais Alojus Piris a dénoncé ce qu'il appelle des modèles gréco-latin d'inculturation, insuffisamment attentif, selon lui, à la valeur des traditions proprement religieuses. Mais le même théologien n'en trouve pas moins dans la littérature patristique de quoi inspirer sa réflexion dans le contexte plurireligieux de l'Asie, en particulier à travers certains écrits de la spiritualité monastique. Je ne peux omettre de mentionner enfin l'immense continent chinois. Certes, il y a encore peu d'œuvres patristiques qui soient accessibles dans ce continent. Pourtant, des œuvres aussi importantes que le Traité des Principes d'Origène ou le Contre-Cels du même Origène ont été traduites en chinois. Et un sinologue italien a pu écrire à ce sujet, même si les études origéniennes dans les milieux académiques chinois en sont encore à leur première phase, elles sont ressenties comme un champ important de recherche, en particulier parce qu'elles offrent un modèle paradigmatique d'assimilation de la culture à l'intérieur du christianisme. Les savants chinois chrétiens sont impatients de voir comment Origène répondait à la question cruciale de la relation entre le christianisme et la culture locale comme une source possible d'inspiration pour leur tentative de développer une théologie sino-chrétienne, c'est-à-dire une théologie chrétienne exprimée dans la langue chinoise. Il est temps de conclure. Même compte tenu des évolutions que j'ai retracées et dont il faut évidemment tenir compte, on peut se convaincre, me semble-t-il, que l'édition des textes patristiques dans Sources chrétiennes, tout en ayant sa justification en elle-même, n'est pas seulement importante pour l'histoire du christianisme ancien, mais qu'elle garde des enjeux essentiels pour la pensée chrétienne aujourd'hui. On peut en particulier souhaiter, dans cette perspective même, la publication de certains volumes qui devraient être du plus grand intérêt pour la théologie. Ainsi, les derniers tomes du commentaire d'Origène sur Matthieu, le Contre-Praxéas de Tertullien, les petits traités trinitaires de Grégoire de Nice, de nouveaux commentaires et homélies de Jean Chrysostome, les livres 2 et suivants de l'immense commentaire de Cyril d'Alexandrie sur l'évangile de Jean, les écrits théologiques de Boès, ou encore, si certains ont le courage de s'atteler à cette tâche redoutable, les Ambigua de Maxime le Confesseur. On peut aussi souhaiter que des textes moins connus ou moins importants puissent eux-mêmes contribuer à inspirer sur tel ou tel point le travail des théologiens. On peut beaucoup attendre, en outre, des volumes qui élargiront notre connaissance de la patrologie orientale et de ceux qui feront encore découvrir de nouvelles œuvres de Bernard et d'autres auteurs spirituels de la période médiévale, y compris, espérons-le, de certains auteurs byzantins, compte tenu de leur intérêt ou de leur importance pour les relations entre l'Occident et l'Orient. On peut vraiment espérer tout cela. Alors, bon anniversaire à la collection Sources chrétiennes et aussi bonne continuation pour les décennies à venir. Merci.
Merci beaucoup, Michel. Je ne fais aucun commentaire. On a une petite dizaine de minutes pour pouvoir éventuellement réagir, intervenir ou interagir avec nos intervenants. Donc voilà, n'hésitons pas. Aussi bien ceux qui sont à distance que ceux qui sont là. Guillaume, si tu veux réactiver ton micro, tu es attendu.
je n'ai pas du tout entendu.
Alors, la question, c'était que dans le paysage éditorial, les belles lettres font parler d'elles de temps en temps. On peut penser notamment à des parutions récentes. Alors, je ne sais pas si tu pensais plutôt à la collection des universités de France ou à des rééditions comme Tertullien à l'arrache. Est-ce qu'il y a une collaboration, une complémentarité?
Oui, mais ça depuis des décennies, les lettres, les poèmes notamment, ont été édités, pas systématiquement, mais quand même régulièrement dans la collection des universités de France. Mais il n'y a pas de concertation du tout. Il est possible que nous fassions aussi, pour la première fois, des volumes, on va dire, complémentaires ou alternatifs pour les lettres de Jérôme. Voilà, cette fois-ci, on s'est concerté avec, avec les belles lettres.
J'ajoute un tout petit mot pour dire, bon, j'ai fait allusion tout à l'heure à la bibliothèque augustinienne, c'est une complémentarité quand même tout à fait remarquable entre la collection sous-chrétienne et la bibliothèque augustinienne qui produit ses ouvrages, ses œuvres d'Augustin, des éditions remarquables. Et puis, je suis heureux de saluer Madame Congourdeau qui, depuis tant d'années, travaille pour la belle collection Les Pères dans la foi, qui édite aussi des traductions de beaucoup de textes patristiques qu'on ne trouve pas dans la collection sous-chrétienne. Donc là aussi, il y a une complémentarité tout à fait heureuse.
Voilà, je voulais simplement dire qu'il y a entre les sources chrétiennes et les Pères dans la foi une collaboration dans le sens où, premièrement, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds et, deuxièmement, avec Guillaume, par exemple, Guillaume me dit tel texte pourrait peut-être être plus dans les Pères dans la foi parce qu'on n'est pas prêt à faire une édition et puis... il y a des textes qu'on voudrait me prendre dans les Pères dans la foi, mais comme les sources chrétiennes préparent, il y a vraiment une collaboration très, très cordiale entre ces deux collections qui d'ailleurs ne sont pas la même chose. Nous, on ne fait pas du tout d'édition, on ne fait que des traductions, mais il y a vraiment une collaboration très, très cordiale.
Merci Marie-Hélène.
Je peux ajouter que dans le domaine médiéval, il en est de même, puisqu'il y a la collection Alma aussi, des belles lettres, avec laquelle on est aussi en relation et pour laquelle aussi on discute quand il y a des textes qui doivent paraître d'un côté ou de l'autre.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Oui ? La question, c'est est-ce que le gisement des pères orientaux est énorme ?
C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Il y a depuis le début du XXe siècle environ deux grandes collections. Une collection qui s'appelle Patrologia Orientalis, qui était fondée par le père Graffin et qui continue, qui actuellement est dirigée par Philippe Huizier, qui est à Rome, à l'Institut Oriental. C'est une collection qui édite... des textes d'auteurs orientaux, pas seulement syriaques, hein, coptes, arméniens, etc., avec des traductions en langue moderne. Et il y a une autre collection extrêmement importante, Corpus Scriptorum Orientalium, voilà, CSCO, Corpus Scriptorum, il y a une initiale qui m'échappe, enfin, peu importe, CSCO en abrégé, et donc cette collection qui a à peu près 500 volumes je crois actuellement, édite beaucoup de textes. Alors avec toujours, il y a toujours un volume qui donne le texte oriental et puis un volume qui donne la traduction en langue anglaise ou allemande, quelquefois en langue française, mais c'est vrai dans la question chrétienne c'est relativement récent des éditions et traductions de textes orientaux.
Mais ça demande aussi des compétences particulières et voilà, il se trouve qu'on a dans l'équipe deux spécialistes de syriaque qui permettent le développement de cette littérature orientale et ça fait pas si longtemps qu'on a aussi la possibilité en PAO d'imprimer des textes en syriaque. Donc c'est effectivement un chantier en grande voie de développement.
C'est un univers, véritablement, et un univers lui-même très divers, hein, parce qu'il y a syriaque, copte, arménien, éthiopien, géorgien, arabe, etc. Et progressivement, ça va transformer notre image de la patristique. Et ça a aussi un enjeu très important pour les relations avec le Proche-Orient, avec le Moyen-Orient, avec les chrétiens de ces régions.
Oui, Isabelle ? A-t-on une chance de voir arriver les homélies sur les psaumes d'Origène qui ont été découvertes récemment ?
Oui, oui, si Guillaume veut répondre, mais enfin, oui, la réponse est oui, puisque c'est en cours d'édition. Mais peut-être...
Une date
j'ai vu l'une des traductrices l'autre jour. Je crois qu'il faut quand même attendre, si j'ai bien compris, 3-4 ans, avant le premier volume. On est parti pour 4 volumes, hein, parce que c'est une trentaine d'homélies d'origine sur les psaumes qui ont été découvertes il y a 10 ans, quoi, 10-12 ans. Mais c'est en cours. La traduction italienne est déjà parue, mais pas encore la traduction française. Mais c'est en route.
Oui. Est-ce qu'il y a une version low cost qui est prévue pour Sources Chrétiennes?
Oui, alors il se trouve qu'à l'occasion des 80 ans, on a eu des financements supplémentaires pour la collection et il est possible qu'on en consacre une partie justement à la préparation d'ouvrages de poche ou de publications en un volume de séries d'ouvrages sans le texte original, avec juste la traduction, comme il existe déjà ce genre de volume pour Irénée, le Contre les Hérésies, ou pour Eusèbe aussi, voilà. Donc, c'est une demande qui est récurrente et dont on a tout à fait.